à Livre ouvert. Toute l'actualité littéraire sur Radio Prévert 105.9.
Bonjour à tous et toujours sur Radio Prévert 105.9 et aujourd'hui on va parler poésie. On reçoit Jean-Louis Hivernat, un poète originaire du bassin chalonnais. Bonjour Jean-Louis Hivernat.
Bonjour.
J'imagine que pour vous la poésie, l'écriture, reste une activité importante dans votre vie. En quoi c'est essentiel pour vous ?
Eh bien, j'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, j'ai été professeur de français, et français histoire géo et français éducation physique par la suite. J'ai toujours aimé ce qu'on appelait la rédaction ou la récitation. Donc ça m'a donné une base. Et ensuite, eh bien, ce sont des événements extérieurs qui m'ont décidé à écrire de la poésie. Non pas à temps plein, hein, parce qu'on ne vit jamais de sa poésie, mais disons dans mes loisirs.
Que signifie écrire pour vous ?
Alors, pour moi, écrire, c'est s'évader déjà. C'est s'exprimer à partir d'événements qui nous ont émus, surtout. On n'écrit jamais gratuitement, mais parce qu'on y a été un peu contraint par la vie, par différentes choses.
Comment décririez-vous votre poésie ?
Alors, ma poésie, je suis plutôt un adepte de la poésie classique. Voilà, j'ai toujours cherché à faire des rimes, à faire des poèmes avec un certain rythme, hein, un certain style. Ma référence, c'est plutôt des poètes classiques, hein, comme Victor Hugo. Je suis toujours admiratif de son œuvre. Dans mon dernier recueil, « Embrasement fertile », j'ai cité un passage, hein, de Victor Hugo, tiré des rayons et des ombres, hein, « Les rayons et les ombres ». Paru en 1840. Le poète en des jours impies vient préparer des jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs, etc. Je ne veux pas vous citer en entier le passage, mais je veux dire que ce qui me plaît dans Victor Hugo, c'est à la fois son aspect réaliste, très concret, très ancré sur la vie, et puis son aspect visionnaire aussi. Il dépasse la réalité dans tout ce qu'il écrit, même un peu plus moderne comme Baudelaire et Rimbaud, mais toujours dans cette veine classique ou néoclassique. Hein. Disons que j'essaye d'appliquer le plus possible les règles de la prosodie classique.
Et qu'est-ce qui vous intéressait justement chez ces poètes néoclassiques ?
Eh bien, c'était justement l'émotion qu'on pouvait éprouver en lisant leurs œuvres. Soit des descriptions, soit des récits, soit une ambiance, une atmosphère. Et j'ai toujours aimé, disons, peut-être un peu de la solitude, la rêverie, le romanesque. Et la poésie m'y conduisait naturellement.
Est-ce qu'il vous arrive de vous inspirer de l'actualité dans vos poésies ?
Tout à fait, oui, d'accord. Oui. Quand je parle d'événements extérieurs, surtout dans mon deuxième et mon troisième recueil. Disons que mon premier recueil, qui s'intitulait « Arimage » en 2013, était surtout axé sur l'environnement, hein, l'écologie, qui est devenu quand même un phénomène assez prenant actuellement. Mais dans mon deuxième recueil, « De la brousse au firmament », eh bien, c'était plutôt des souvenirs, hein, des souvenirs d'Afrique, parce que j'ai vécu 2 ans au Cameroun, et puis des actualités. Mais de toute façon, dans l'ensemble de mes recueils, même surtout dans le troisième, Embrasement fertile, eh bien, je pars de choses vécues la plupart du temps, et de l'actualité en particulier.
Donc pour vous, c'est important de lier l'actualité avec vos poèmes ?
Tout à fait, oui. Je pense que même je ne pourrais pas écrire sans l'actualité.
Ah, d'accord.
Je ne peux pas faire uniquement de la fiction.
On sait que pour beaucoup, la nuit, c'est plus inspirant. Est-ce que vous avez des moments préférentiels pour écrire ?
C'est vrai qu'à une certaine période, j'écrivais surtout la nuit. Enfin, en début de soirée, hein, disons. Pas toute la nuit, hein, quand même, parce que je travaillais quand même. Mais c'est vrai que le soir, c'est un moment propice à l'écriture, pour moi.
Mais comment expliquez-vous cela ?
Eh bien, parce qu'on est moins tenté, enfin, on est moins distrait, hein, par ce qui se passe autour de nous. On peut mieux s'isoler. La nuit, pour l'inspiration surtout, et puis alors pour la rédaction, là il n'y a pas de souci, hein, je peux écrire aussi dans la journée. Hein, ça.
Comment vous viennent vos idées ? Est-ce spontané ou vous obligez à certaines heures à écrire ?
Ah oui, c'est toujours spontané. D'accord. C'est-à-dire que là, Si on prend le cas présent, eh bien, ça fait, disons, 2 mois, 3 mois que je n'ai pas écrit un vers. Hein. Je n'ai pas l'envie ni le désir d'écrire. Oui. Alors, au mois de juillet, par exemple, de l'an dernier, eh bien, j'ai écrit 10 poèmes en l'espace d'un mois.
D'accord, oui.
Parce que je sentais ce besoin. C'est un véritable besoin.
Oui, ça reste un plaisir avant tout.
Un plaisir, oui, oui.
Pourquoi écrire des poèmes plutôt que des romans pour vous ? Pourquoi ce choix ?
Ah oui, ça, c'est une question que je me suis posée. D'ailleurs, j'ai commencé des romans, des nouvelles, mais je ne suis encore pas allé jusqu'au bout. Enfin, disons que les manuscrits dorment quelque part. Ben pourquoi ? Ça m'est venu comme ça. C'est un peu mystérieux, en fait, hein. Le besoin d'écrire des poèmes plutôt qu'un roman. Parce que c'est vrai, quand je vous parlais de la rédaction de mes années de jeunesse ou d'enfance, là, c'était toujours dans un style de prose, quoi. Hein. C'était jamais en poésie.
Selon vous, quelle est l'importance d'événements comme le Printemps des Poètes ?
Alors, le Printemps des Poètes, je trouve que c'est un très beau dispositif parce qu'il donne un éclairage, hein. Il permet de parler de la poésie. On ne peut pas dire que la poésie est vraiment beaucoup de retentissement. On étudie des poètes anciens, ou des poètes modernes aussi, hein, comme René Char, mais on ne peut pas dire que ce soit, disons, un genre qui soit aussi populaire que le roman. Le week-end dernier, j'étais au Salon du Livre à Chenôve, par exemple. Ben, il y avait, sur une 50aine d'exposants, il y avait 2 poètes.
Il n'y a pas assez d'événements comme le Printemps des Poètes, vous pensez ?
Ah oui, oui. Je veux dire, c'est un très bon dispositif pour rappeler aux gens qu'il y a une autre forme d'expression que le roman, le rap, le slam.
Alors, on a parlé de votre lien à la poésie. Désormais, nous allons évoquer sa place dans notre société actuelle et notamment chez les jeunes. Alors, avec toutes les nouvelles technologies, les tablettes, les téléphones portables, peut-elle encore intéresser les jeunes, la poésie ?
Oh, mais je pense. De toute façon, toutes les formes d'expression, la chanson, la musique, il y a à la base, de la poésie, certainement. Hein, même dans je parlais du slam, c'est pas pour le dénigrer, je veux dire. C'est une forme d'expression libre.
Enfin, elle évolue plus dans des textes classiques, oui. Mais dans du rap, du slam, oui. Comme vous dites, oui, ça évolue.
Oui. Et je pense que la poésie a toujours été en lien direct avec la musique. Et si des poètes peuvent être mis en musique, mis en chanson, hein, je pense à Jean Ferrat par exemple qui chantait des poèmes d'un professeur qui s'appelait Thomas, hein, Monsieur Thomas, et qui lui écrivait ses textes.
De mon souvenir, on avait quelques poésies en primaire, mais ensuite, on n'en parlait que très peu au collège et au lycée. Est-ce qu'à votre époque c'était plus présent, la poésie
Je pense, oui. Oui, oui. La poésie, elle était présente même dans les examens, je veux dire. C'était pas seulement un passe-temps ou un dérivatif. Il y avait un enseignement, hein, vraiment poussé sur la poésie, dans tous les niveaux, hein, des classes.
Oui, donc l'enseignement, c'était pas forcément que de la récitation.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
Pourquoi ça a évolué comme ça, vous pensez ? Pourquoi c'est devenu que plus de la récitation et moins...
Ouais, ça c'est difficile à dire. C'est l'époque actuelle veut s'affranchir de règles, veut laisser libre cours à l'expression, et parfois peut-être il y a un décalage avec les règles classiques, sans doute.
Mmh. Justement, du coup, que penser de l'avenir de la poésie dans notre société actuelle ?
Moi, je pense que la poésie vivra toujours, parce que vous voyez, là, je suis ici à votre radio. Hein, au titre de l'Association des Poètes de l'Amitié, Poètes sans frontières, hein, qui est une association dijonnaise à laquelle je participe et dont je suis membre. Mais quand on voit le goût pour les concours, hein, de poésie, il y a toujours beaucoup, beaucoup de candidats qui envoient des poèmes. Donc les gens écrivent encore beaucoup actuellement, aussi bien en poésie classique, hein, qu'en poésie libre.
Pour vous, qu'est-ce que la poésie peut apporter à des jeunes ?
La poésie, elle s'impose à nous, je veux dire. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, elle s'impose ou elle ne s'impose pas. Hein. Mais on a toujours, pour moi, du plaisir à écouter un texte, parce que la poésie, elle est orale, hein, au départ. Elle fait partie de la tradition orale. Et le goûter, l'apprécier, le goûter.
S'il y a des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui, quels conseils donneriez-vous ?
Je vais pas leur dire d'imiter les anciens, mais enfin de s'inspirer des anciens et de laisser aller leur imagination. Parce que l'imagination, c'est la base de la création. Mmh. Et tout le monde a de l'imagination, je pense. Hein.
Mmh. Oui, parce que maintenant je pense qu'on a l'image de la poésie assez démodée, même... Même à l'école, c'est plus une obligation, les récitations, mais voilà, qu'en pensez-vous
Ça va, je le regrette. Ouais. Franchement, je le regrette parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir quand j'étais jeune à écouter de la poésie, à l'apprendre, à la réciter. J'ai été enseignant aussi bien en primaire qu'en collège. Eh bien, j'ai eu des élèves, je veux dire, qui appréciaient la récitation, qui s'investissaient. Je me souviens, quand j'étais dans une école à Sagy, à côté de Louan, eh bien, j'ai fait participer mes élèves au concours de diction, par exemple. Oui. Mmh. Et je me souviens, un petit élève là, qui avait récité le poème Le Hérisson et qui mettait tout son cœur, je veux dire. C'est un exercice, mais c'est un exercice plaisant.
D'accord.
C'est pas un devoir.
Donc, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours, vos différents métiers aussi?
Alors, moi, mon premier métier, c'était d'être enseignant. Hein. J'ai passé le bac philo ici, à Châlons. Et ensuite, je suis allé à l'école normale à Mâcon. Et j'ai été enseignant, c'est-à-dire élève-maître et puis instituteur. Et je suis parti 2 ans en Afrique faire de la coopération. D'accord. Et j'étais enseignant en collège, en français, histoire et géographie. Et je suis revenu, j'ai eu un poste de... dans une classe unique, hein, à côté de Verdun-sur-le-Doubs, un poste primaire. Et après, j'ai fait des études pour devenir professeur de collège.
D'accord.
Donc, j'ai été professeur de collège à Verdun-sur-le-Doubs, essentiellement, pendant 18 ans. Et ensuite, j'ai passé le concours d'inspecteur de la jeunesse et des sports. Donc là, j'ai eu un poste à Lille pendant 3 ans, à Besançon pendant 1 année, puis ensuite à Dijon, j'étais à la direction régionale de la jeunesse et des sports. Est venu l'âge de la retraite, alors j'ai voulu faire une thèse en littérature comparée, donc j'ai soutenu une thèse intitulée « Les figures emblématiques de l'idéal sportif, le héros, le champion, l'idole ». Mythe et réalité.
D'accord.
Voilà, que j'ai soutenu à l'université de Dijon en 2007, mais j'étais déjà en retraite. Mmh. Et puis, j'avais donc, au point de vue de la poésie, j'avais commencé à écrire dans les années 80. 80, 82, ce sont des années où il y a eu beaucoup de crues. D'accord. C'est pourquoi j'ai voulu m'insurger par la plume contre les inondations, les crues, qui changeaient le paysage, qui pouvaient plonger des gens dans l'angoisse. Donc c'est pourquoi j'ai écrit ce premier recueil, Arrimage, ancré sur le réel et l'environnement. Et puis voilà, donc je vous parle pendant les années où j'étais à Jeunesse et Sport, donc j'avais laissé de côté la poésie. Mais dans les années 80, donc, j'ai connu cette association dijonnaise, les Poètes de l'Amitié, ainsi que l'Académie des Poètes Classiques de France. J'étais membre des deux associations.
Quels sont vos premiers souvenirs liés à la poésie ?
Mes premiers souvenirs, c'est toujours, on en revient un peu toujours à l'école et à la récitation, mais c'était ça. Quoi. Je me souviens des cahiers dans lesquels on écrivait des poèmes et que l'on récitait ensuite et que l'on illustrait. Hein. Il y avait tout un environnement autour de cet enseignement de la poésie.
Et vous ne deviez retenir qu'un mot, la langue française ?
Un seul mot dans la langue française. Alors là, c'est
très compliqué.
Un véritable piège.
C'est ça.
La langue française. Par rapport à la langue française, l'idée que je peux m'en faire.
Oui.
Oui, j'associe à la fois plaisir et divertissement.
Pour terminer, donc vous avez des poèmes. Est-ce qu'il y a un poème qui vous tient à cœur que vous pouvez nous lire maintenant sur Radio Prévert ?
Eh bien, je vais vous lire le premier poème qui a été publié dans une revue qui s'appelle L'Albatros, un poème classique. Alors, il faut que je retrouve la page. Donc, c'est Mon arbre quotidien. Je vais le retrouver, il doit être là. Voilà, dans mon recueil Arrimage. C'est-à-dire que ça, c'était le poème qui m'a engagé sur la voie de la poésie classique. Hein. Mon arbre quotidien, saule majestueux, trône de bois vivant, depuis longtemps déjà, comme un rêve s'élance, tes branches dans le ciel et ton feuillage dense composent un bouquet secoué par le vent. Spectacle souverain découvert au levant, tu charmes le regard du passant qui s'avance sur le petit chemin entouré de silence, qui serpente, n'osant affronter par devant. Mais ce tronc tourmenté me fait craindre le pire. D'ignobles bûcherons t'observent sans sourire. Je sens planer sur toi la menace d'un choix. Violent destructeur, faut-il que je vous craigne, car vous osez marquer cet arbre d'une croix, que maudit soit le jour où finira son règne.
Donc pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi ça parle en détail?
Voilà. Oh, bah ça, c'est tout simple. Hein. C'est un... Pourquoi je l'appelle mon arbre quotidien? C'est un peu comme le pain quotidien. D'accord. C'est un arbre que j'avais sous les yeux, hein, parce que j'habite à Crissé. Et puis, c'est un arbre qui trônait au milieu d'un pré. Et c'est un saule, hein, c'est-à-dire c'est pas tellement un arbre noble, mais enfin, il avait un tronc énorme, c'est un vieil arbre, hein, et alors son feuillage était immense, et alors il changeait à chaque moment, on peut pas, peut-être pas de la journée, mais chaque moment de l'année, hein, à chaque saison, et c'était un spectacle vraiment, pour moi, magnifique. Bon, mais alors il était coupé, d'où l'expression du poème qui regrette, quoi. Que, bon, ben, c'était un arbre isolé, hein, on ne peut pas non plus hein, se plaindre trop, mais... Et puis c'était pas, je vous dis, hein, c'était pas un chêne, c'était pas hein, les arbres qu'on a l'habitude d'encenser, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos autres livres, un peu?
Oui, donc là, de la brousse au firmament, il y a beaucoup de souvenirs de, comme je vous l'ai dit, de mon passage au Cameroun. J'écris souvent comment, dans le format du sonnet, mais là, j'ai préféré commencer par des comptines, hein, un genre de comptines, c'est-à-dire avec des répétitions. Voilà, c'est ce qu'on appelle des rondelles, rondelles EL, hein, voilà, sur l'Afrique, beaucoup, et puis sur les événements qui se sont passés. Voilà, ritournelles camerounaises. Hein, donc, par exemple, quand j'ai été accueilli, il y avait, à la sous-préfecture d'EDEA, au Cameroun, un petit singe qui était blessé et que le sous-préfet avait recueilli. Alors, je vais vous lire cette petite singe blessé, page 29. Le singe blessé, il se cache sur la terrasse, s'inquiète du visiteur, se recroqueville de peur. Loin des regards, il se prélasse, il boite quand il se déplace, une patte serre en son cœur. Il se cache sur la terrasse, s'inquiète du visiteur. À l'allure d'une limace, il tourne en rond dans la torpeur, s'amuse de la moindre fleur, s'approche d'une calebasse, il se cache sur la terrasse. Voilà, mais sur, vous me parliez tout à l'heure des événements. Alors là, voilà, ma deuxième partie, après les ritournelles camerounaises, ce sont les idoles humaines. Je passe en revue un certain nombre de personnages qui m'ont marqué, même des personnages de ma famille.
D'accord.
Pourquoi ici, il y a le robot qui était sur Mars? Parce que j'ai un gendre qui est astrophysicien.
D'accord.
Et qui a participé à l'épopée de la découverte de Mars. Et, voilà. Et puis, même des chanteurs, Brassens, Ferrat, Brel, hein, qui j'ai... ou alors des poèmes sur mes petits-enfants, hein, le regard d'Augustine, etc. Nelson Mandela, Angela Davis, des personnages célèbres. Que vous dire d'autre? Dans le troisième recueil, par exemple, vous me parliez de l'actualité. J'ai écrit des poèmes sur, vous savez, les attentats, sur le Bataclan, sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Voilà, des choses qui étaient tellement frappantes qu'on ne peut pas, rester inactif, hein, Charlie Hebdo. Page 44. Si vous voulez, je peux vous le lire.
Oui, pourquoi pas.
Quand l'horreur a sévi, tout le monde a pleuré. Des innocents sont morts pour une cause extrême. Un journal satirique ayant pour stratagème de se moquer de tout s'est soudain effondré. Un commando fasciste a tué, massacré la liberté de presse en frappant son emblème. quatre dessinateurs à l'esprit de bohème ont payé de leur vie un travail censuré. Contre l'Occident libre, un islam intégriste veut attiser la haine en étouffant l'artiste, répandre la terreur par le feu, par le sang. Des siècles de combats pour la démocratie ont établi la paix de leur souffle puissant, que la fraternité soit notre galaxie.
J'ai l'impression que dans votre vie, d'événements marquants, votre réflexe c'est...
De le coucher par écrit.
C'est
ah
ça.
Oui, ça c'est évident. Oui. Oui.
Comment vous expliquez cela, que ça soit devenu un réflexe de...
Alors ça c'est un peu... oui, c'est très mystérieux. Très mystérieux parce que ce n'est pas, si vous voulez, la taille de l'événement qui me motive. C'est simplement une intuition, ouais, au départ, ou un choc émotionnel plus grand qu'un autre. Alors peut-être qu'un événement, peut-être insignifiant, va me marquer plus qu'un événement très médiatisé. Ça, je ne peux pas le dire à l'avance. Rien n'est prévu à l'avance, n'est programmé, quoi. Oui,
c'est ouais. Vous avez dit que vos livres, c'est totalement reversé à une association, l'ASTI.
Oui,
pourquoi
oui.
C'est important pour vous de reverser ça à une association?
Mais parce que... T'es sensibilisé à cette... ayant vécu en Afrique aussi, hein, connaissant un petit peu les conditions de vie des gens, et puis le fait que dans mon quartier, enfin pas mon quartier propre, parce qu'à Crissé c'est pas le cas, mais à la ZUP, à Chalon, tout ça, on voit qu'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère et qui ont cherché la liberté, qui ont cherché la sécurité, qui sont venues ici... Et je veux dire que les pays d'Occident peuvent accueillir largement, hein, parce que je veux dire, les conditions sont tellement différentes. Hein. C'est le problème humain qui m'a surtout motivé.
Merci Jean-Louis Vernat d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
Je le rappelle, vous êtes poète. Excellente journée à tous sur les ondes de Radio Prévert.
C'était À Livre Ouvert. Toute l'actualité littéraire sur Radio Prévert 105.9.